les jardinières.
Et c'est déjà le dernier samedi du mois de novembre. Allez, encore un petit peu de patience avant d'ouvrir la première porte du calendrier de l'Avent. Et pour patienter, place aux jardinières. Bonjour Brian.
Mais bonjour Mylène, bonjour à tous.
Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes en compagnie de Julien Flunzer. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Julien Flunzer, vous êtes coach en jardinage à Neuchâtel. Et pour vous contacter, il suffit de taper www.ortis-concordia.ch, Ortis avec un H. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous au potager du samedi. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Et dans moins d'un mois, c'est Noël et l'envie de décorer sa maison est déjà là, si ce n'est pas encore fait. Julien, si on décide de mettre son sapin maintenant, hein, un vrai sapin, on va parler pas du sapin synthétique, comment faire pour qu'il reste beau durant tout le mois de décembre? Parce que c'est quand même assez long, hein, 25 jours pour un sapin.
Oui, alors il faut bien choisir la variété. Il y a des variétés de sapins ou même d'espèces de sapins qui durent plus ou moins longtemps. On sait que le Norman, c'est celui qui dure le plus longtemps. C'est aussi le plus cher. Et puis, il y a un petit peu trois pratiques à faire. C'est-à-dire, le mieux, c'est l'éloigner des sources de chaleur, donc des radiateurs, de la cheminée pour qu'il y ait le moins de sec possible. Et puis, on dit aussi, avant de commencer à le décorer, c'est pas mal de l'asperger avec un petit peu d'eau, le sprayer. Et voilà, il y a aussi les solutions de sapin en pot, qu'on peut acheter et replanter après ou garder en pot, ou ces systèmes de location de sapin qui sont intéressants pour divers aspects.
Et en plus, on n'a pas besoin de le garder à la maison, après on le rend à son propriétaire.
Après, il a une seconde vie, absolument.
Et puis peut-être rappeler, hein, les bougies et les sapins ne font pas très très bon ménage.
Non, il faut être prudent avec ça, donc je ne sais pas s'il faut le dire le moins possible, mais en tout cas, surveiller vraiment ce qu'on fait.
Merci Julien, et puis peut-être on va vous demander si on ne fait pas le sapin ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire au potager?
Et ben, on peut toujours faire un petit peu les soins de fin de saison, donc toujours un petit peu d'entretien, de paillage, d'arracher ce qui nous reste à arracher. On peut déjà un petit peu soulager les travaux de printemps justement en anticipant un petit peu.
Merci beaucoup Julien. Jusqu'à 8h, vous pouvez poser vos questions à notre spécialiste, soit en nous appelant au 0901 70 20 20, soit en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières, ou en nous envoyant un SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question et vous nous envoyez ce message au 939.
Dans quelques minutes, nous allons découvrir la profession d'arboriste grimpeur, un métier qui va nous faire prendre de la hauteur.
7h, 8h, les jardinières.
Quand on parle de jardin, de verger ou de potager, on pense bien sûr aux jardiniers. Mais il existe une multitude de professions liées au monde végétal. Et ce matin, en compagnie de Julien Flunzer, on vous propose de découvrir le métier d'arboriste grimpeur. Alors Julien, en quelques mots, expliquez-nous, c'est quoi un arboriste grimpeur?
Eh bien, c'est un passionné qui se consacre aux soins et à l'entretien des arbres, et en particulier les grands arbres, qui nécessitent un accès et des méthodes d'intervention très très spécifiques, qui sont justement le domaine des arboristes grimpeurs.
L'arboriste grimpeur, il est aussi appelé soigneur des arbres. Ça vous convient comme définition?
Oui, alors j'ai entendu moins poétique que ça, c'est pas mal. Mais comme le domaine, c'est le soin aux arbres, ça correspond tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez entendu de moins poétique?
Il y avait les bûcherons équilibristes, il y a beaucoup le terme élagueur, qui est un terme ancien dont on essaye de se séparer, parce que ça fait plutôt référence à des tailles très sévères, et puis c'est l'inverse qu'on essaye de faire un petit peu aujourd'hui. Et puis il y a tout le champ sémantique lié au singe et tout ça. On a droit régulièrement.
Arboriste grimpeur, c'est deux mots. Arboriste grimpeur, hein. Voilà, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Est-ce que ça veut dire que ce sont deux formations différentes? Est-ce qu'on doit faire une formation d'arboriste et une formation de grimpeur?
Alors la formation d'arboriste tout court, sans que ce soit grimpeur, je ne sais pas si elle existe ou ce qu'elle veut dire. Ce serait plutôt, je pense, les dendrologues qui s'occuperaient de ça. Mais non, ça spécifie justement les deux aspects, c'est-à-dire où on intervient, c'est l'arbre, donc l'univers de l'arbre avec toute la biologie et tout ce qui tourne autour. Et puis le côté grimpeur, c'est justement toutes les techniques et les méthodes d'accès et les techniques de démontage, d'intervention qu'il va falloir faire.
Mais justement, en parlant de formation, comment est-ce qu'on devient arboriste grimpeur? Est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce qu'on peut le faire partout en Suisse? Est-ce que c'est juste un métier autoproclamé? Dites-nous tout.
Alors ça, c'est un peu la zone grise de la profession, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formation comme CFC ou de formation continue. Il y a un brevet fédéral de soins aux arbres qui est un niveau très, très exigeant, mais c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation pour devenir praticien simplement. Donc c'est assez difficile de rentrer, c'est quand même un milieu, je ne vais pas le cacher, qui est assez tribal, assez élitiste, qui se veut comme ça, parce qu'il y a une qualité derrière qui est attendue, mais il faut rentrer comme vous pouvez, c'est un peu l'un des rares métiers où on peut rentrer à l'ancienne.
Un métier qui pourrait aussi faire rêver les enfants qui aiment grimper aux arbres. Est-ce qu'il faut, pour essayer de devenir arboriste grimpeur, savoir déjà grimper et surtout ne pas avoir le vertige?
Je pense que c'est des avantages, mais le côté grimpe, en fait, pour les grimpeurs en grimpe libre et tout ça, ils vont être surpris parce que c'est pas du tout cette grimpe-là. C'est plutôt une grimpe, comme on dirait, en artificiel, ou c'est plutôt des remontées sur corde. C'est toujours des travaux sur corde tendue. Donc, c'est des toutes nouvelles techniques que vous allez apprendre du début à la fin, de toute façon. Le vertige, moi, je l'ai, par exemple. Donc, ça aide pas, mais il faut lutter un petit peu. Donc, moi, il m'a toujours fallu à peu près un quart d'heure pour commencer à être à l'aise dans ce que je faisais.
Ouais. C'est fou, ça, de se dire, j'ai le vertige, mais je vais quand même monter sur des cimes. C'est quoi, la hauteur? 30, 40 mètres, quand même?
Ouais, alors 40, il n'y a pas beaucoup, mais il y a encore 2-3 séquoias qui tapent facilement les 35. Et puis, c'est vite impressionnant, ouais, effectivement. Par rapport à la falaise, le vertige, la sensation de vide vient plus vite, ouais, je trouve.
Merci beaucoup Julien, on continue de vous présenter la profession d'arboriste grimpeur dans quelques instants, juste après une courte pause musicale.
Les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Julien Flunzer, coach en jardinage à Neuchâtel, nous découvrons le métier d'arboriste grimpeur, un métier qui fait prendre de la hauteur. Julien, vous-même, vous êtes arboriste grimpeur. Pardon. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Mais c'est le côté adrénaline, c'était le côté grimpe qui est devenu vraiment fascinant parce qu'il y a tellement de techniques d'ascension, de démontage, de déviation, on apprend tellement de choses aussi par rapport au secours. Et c'est un univers qui est tellement vivant, qui est plus qu'une, on est plus que collègues, on est tous plus ou moins dans un cercle, on est plus tous ou moins amis, c'est très connecté avec l'international, il y a des compétitions, il y a des événements, c'est le plus vivant et le plus riche de mon expérience de tout le domaine du vert que j'ai fait. Ouais.
Et puis Julien, comment se déroule la journée type d'un arboriste grimpeur? Vous vous levez déjà le matin et puis ensuite?
Alors, de temps en temps, on se lève, ouais, effectivement. Alors, ça peut beaucoup varier suivant les entreprises où vous êtes, mais un petit peu traditionnellement, on dirait quand on arrive sur un chantier, sur un arbre, on fait très vite ce qu'on appelle le VTA, c'est le Vital Tree Ascending. Ça veut dire, est-ce que l'arbre est grimpable ou pas? Qu'est-ce qu'il présente comme difficulté? Est-ce qu'il a des pourritures? Est-ce qu'il a des faiblesses? On établit une zone de sécurité, un périmètre aussi pour protéger les gens en dessous, ou s'il y a des choses en dessous. Et puis, on établit vite fait aussi un accès, s'il y a des complications par rapport à l'ambulance, où est-ce qu'elle doit venir par le sud, s'il y a un hélicoptère, est-ce qu'il y a des lignes à haute tension. Et puis, on fait un petit peu tout le plan de ce qui pourrait mal se passer à l'avance. Comme ça, après, normalement, on peut attaquer. Donc la première chose, c'est de placer ce qu'on appelle un petit sac avec une corde. C'est un petit sac qui est lesté avec un tout petit fil qu'on doit essayer de placer le plus haut dans l'arbre, dans un enfourchement qui peut retenir notre poids. Et avec cette chose, on peut ensuite installer la corde d'accès qui nous permet de grimper dans l'arbre. Et une fois qu'on est dans l'arbre, chaque grimpeur va mettre sa propre corde, son propre système. Et à partir de là, on peut monter et descendre comme un carrousel.
Alors, vous nous avez parlé de cette corde. Qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel quand on est arboriste grimpeur? J'imagine qu'on ne peut pas s'autoproclamer arboriste grimpeur. Il faut quand même du gros matériel.
Y a beaucoup de matériel et puis on utilise tout. Ce n'est pas juste pour décorer, mais il y a énormément de choses, que ce soit pour le matériel du grimpeur personnel, donc sa corde, son harnais, tous ses systèmes, ses bloqueurs, ses jumards. Il y a toutes les techniques d'accès, il y a toutes les cordes pour le démontage, puis il y a beaucoup de matériaux différents, ça peut être du dynamo, de la corde, il y a des poulies, il y a des rétentions, il peut y avoir des grues, des hélicoptères, donc la liste elle est ultra exhaustive, et puis d'apprendre ça tout seul, c'est à moitié inconscient et à moitié suicidaire.
Et puis il y a le matériel du jardinier, qu'il ne faut pas oublier, de l'arboriste, on parle de la tronçonneuse, du sécateur, parce que j'imagine que vous ne montez pas les mains vides pour faire une photo.
Ça, bon, on fait pas mal, mais le sécateur c'est assez rare, effectivement, c'est plutôt pour les petits arbres, pour la formation, mais l'outil principal, c'est la scie. Tous les arboristes ne sont pas fadas du démontage et de la tronçonneuse non plus, mais c'est un outil qui revient très souvent, donc ça fait partie des plus... C'est la scie et la tronçonneuse qui seront le plus utilisées. Oui.
Et Julien, est-ce que c'est un travail aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Est-ce que les deux sexes sont plutôt bien représentés?
Alors, ils sont très mal représentés, mais je pense que c'est pour tous les homo sapiens qui ont les compétences, indépendamment de leur sexe et de leur religion, de n'importe quoi.
Si là, il y a un jeune qui nous écoute et qui se dit « Waouh, c'est vraiment un métier qui a l'air très sympa », qu'est-ce que vous lui diriez, là ?
Qu'il faut être très persistant et très endurant pour déjà pouvoir rentrer un premier pas pour trouver une entreprise qui va le prendre en stage. Le stage risque d'être pas très rigolo parce que contrairement à d'autres choses, si on peut pas mettre le stagiaire faire un petit truc anodin un moment, c'est tout de suite, il a tout de suite la possibilité de se mettre en danger, donc il risque aussi de faire que de ramasser des branches pendant une semaine, mais il faut essayer de pas lâcher, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas une vie tranquille, donc il faut déjà le mindset, l'état d'esprit pour dire j'en veux, et puis il faut le feu sacré, et là les employeurs le verront.
Julien, quel est votre souvenir le plus fou d'arboriste grimpeur, le plus fou des fous?
Il y a un peu deux parallèles, il y a le côté fou, dangereux accident, et puis il y a le côté fou, plutôt drôle et ludique, donc... Ouais, le plus fou, c'est les collègues, c'est les gens qu'on va retrouver là-bas. C'est un métier où il faut un caractère assez fort, donc vous avez des personnages qui sortent presque des films. Hein. Il y a vraiment un folklore vraiment hallucinant, donc c'est les gens le plus fou.
Merci beaucoup Julien, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on va revenir encore quelques instants après sur ce métier d'arboriste grimpeur peu connu, mais qui fait bien rêver quand même.
7h, 8h, les jardinières.
Comme tous les samedis matins, les jardinières sont là pour vous donner de bons conseils en jardinage, mais aussi pour répondre à vos questions. Julien Funzer est coach en jardinage à Neuchâtel. Pour le contacter, rendez-vous sur son site ortis-concordia.ch ou alors vous avez jusqu'à 8h pour poser vos questions à notre spécialiste. Et est-ce qu'on a perdu Brian ?
Non, il est là. Parfait. Des questions qu'on attend par téléphone, notamment au 0970-2020 pour 36 centimes la minute. Et la chance de parler directement avec Julien, notre spécialiste. Mais aussi en remplissant le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et la possibilité de joindre une photo ou en envoyant un message. Aussi, troisième possibilité, vous tapez jardin. Un espace et votre question que vous envoyez au 939.
Et ce matin, en compagnie de Julien Funzer, on a parlé des arboristes grimpeurs, un métier peu connu et parfois difficile d'accès dans les deux sens du terme, hein, autant de grimper un arbre que de devenir arboriste grimpeur. Julien, on avait envie de vous demander quelques petites anecdotes sur ce métier peu connu, par exemple. Est-ce que vous avez là, comme ça, à brûle pour point, une petite anecdote à nous raconter ?
Oui, je pourrais parler de la fois où on taille des arbres à Lausanne qui étaient tout près d'un immeuble. Et puis, en fait, presque à chaque étage, les gens nous invitaient à boire le café et boire un verre. Donc, on venait un peu en mode Tarzan, on s'asseyait sur le balcon, on buvait le café. Ensuite, on retournait dans l'arbre. Ensuite, quelques minutes plus tard, on retournait boire un verre. On a fait presque tous les balcons de l'immeuble ce jour-là.
Ça devait être sympa.
Ça doit motiver certains à se lancer dans le métier.
Julien, justement, vous parlez que vous étiez en ville. On a parlé tout à l'heure du matériel, de la sécurité. Ça doit être assez compliqué de pouvoir faire ce métier en plein centre-ville ou parfois entre deux bâtiments parce qu'on voit parfois des grands sapins. En plus, les sapins, c'est pas sûr de monter dessus. Comment ça se passe quand vous devez intervenir en pleine ville ?
Ben, il faut faire intervenir beaucoup d'autres monde. Des fois, on demande de bloquer les routes, de bloquer les parkings, si possible, de ne pas laisser les voitures dessous, mais ce qui est des fois pas toujours le cas. Et puis, ben, c'est là qu'on va utiliser tous les systèmes de rétention. Ça veut dire qu'on ne va rien lâcher par terre, en théorie, bien sûr. Et puis, mais donc là, c'est très compliqué. Hein. Beaucoup d'intervenants de partout, des gens pour faire la sécurité au sol. Il faut des fois la police pour la circulation. Il y a tout un dispositif, justement, pour que ça se passe bien et puis le plus rapidement pour tout le monde.
Puis Julien, est-ce qu'il y a un âge limite jusqu'auquel on peut exercer ce métier ?
Non, il n'y a pas d'âge limite, mais c'est lié à la forme physique que vous allez avoir, parce que c'est quand même très exigeant, ça c'est pas légendaire, c'est vraiment très athlétique, et ça, à terme, ça va vous coûter quelque chose, hein, au niveau de la santé, que ce soit à court, moyen ou long terme, vous allez laisser des plumes, c'est certain.
En tout cas, le physique, vous l'avez encore, hein, Julien, parce que moi j'ai la chance de vous voir en vrai. Voilà, ça c'est dit, on va... rire un petit coup, puis se retrouver après un titre de Cyndi Lauper pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et puis tout ce thème sur les arboristes grimpeurs, vous le retrouvez en cours de matinée, en podcast sur notre site. Merci beaucoup Julien. Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Ce matin, nous sommes en compagnie de Julien Funzer, coach en jardinage. Et il est là pour répondre à vos questions, des questions qu'on attend, Brian.
Oui, on les attend soit par téléphone au 0900 70 20 20 et la chance de parler en direct avec Julien Flunzer, notre spécialiste du jour, mais aussi en remplissant le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières et la possibilité de joindre une photo ou aussi en envoyant un message. Vous tapez jardin, un espace et votre question et vous envoyez ce message au 939.
Nous avons reçu une question de Sébastien qui vit au Locle et il nous demande, est-ce que l'on peut encore planter en pleine terre un framboisier et un résiné? Alors Julien, c'est vous le spécialiste, à vous la parole.
Oui, on peut encore planter ça, et puis il faut juste savoir si la racine nue ou s'il est en pot, parce que si la racine nue, on peut clairement les planter de toute la saison d'hiver, hein, d'octobre à avril. Et puis par contre, ce que je conseillerais pour les framboisiers, c'est de planter sur butte, de surélever un petit peu le sol pour pas que les racines baignent trop dans l'eau, pour éviter un peu le pythium et d'autres problématiques qui peuvent venir derrière, mais on peut y aller, pas trop de problèmes.
Donc c'est comme chaque fois qu'on plante un petit fruitier, on le met en terre et on arrose généreusement, même maintenant en hiver?
Enfin, oui, on arrose surtout pour colmater les trous entre les racines et la terre, justement pour qu'il y ait le moins d'air possible. Que pour hydrater, pas proprement parler.
Et une autre, merci beaucoup Julien, une autre question. Mon arbre est trop grand, que faire?
Alors la première chose à faire, c'est de pas dire ça, parce que c'est comme ça que vous allez faire beaucoup d'ennemis chez les arboristes grimpeurs. Mais non, il n'y a pas d'arbre trop grand. Il y a un peu des fois, moi j'inviterais les gens qui veulent planter des arbres de bien se renseigner dans les pépinières où les achètent, ou vers les architectes à qui ils se réfèrent, de faire attention au développement de l'arbre pour ne pas mettre des arbres à grand développement juste à côté de structures, de bâtiments et tout ça, parce qu'à long terme, c'est des problèmes et c'est des futurs abattages en vue.
Parce qu'on peut tailler un arbre qui deviendrait trop haut, par exemple, qui boucherait une fenêtre, mais est-ce que les racines sous terre vont grossir et pourraient être un problème, par exemple, pour une façade ou pour un mur, une route?
Oui, ben là, ça va dépendre justement du réservoir du sol qu'il y a, c'est-à-dire la place à disposition pour les racines. Et si on parle dans les zones urbaines, on sait que le sol, on appelle ça des anthroposols, c'est-à-dire que c'est des sols qui ne sont pas naturels, qui sont que des terres de remblai, des choses amenées, des choses importées. Donc il y a toujours une relation entre la partie aérienne et la partie racinaire, et un équilibre à avoir. Et puis, si je prends par rapport à la ville, c'est beaucoup des tailles de cohabitation, parce qu'on doit faire cohabiter des arbres qui veulent peut-être devenir très grands, mais il n'y a pas forcément la possibilité. Et c'est un peu là-dessus qu'on joue. Il n'y a pas vraiment de taille de réduction. C'est des choses qu'on essaye d'éviter, qui sont assez mal vues maintenant.
Et on va justement rester dans la taille. Julien, on a reçu cette question qui nous dit « Lorsque l'on parle de tailler un arbuste pour le revigorer, que se passe-t-il réellement ?»
Oui, alors on entend souvent le terme « revigorer » qui laisse porter pas mal d'espoir, mais il faut savoir que c'est un stress. Toutes les tailles qu'on fait sur un arbre, sa réaction, c'est une réaction de stress. Si on le taille juste avant la période de la chute des feuilles, avant l'automne, il va stresser, il va faire des anticipés parce qu'on lui enlève des parties qu'il a besoin dans ses réserves pour passer l'hiver. De la même manière, si on taille au printemps, c'est aussi une réaction de stress. Donc, en faisant ça trop souvent, on épuise les végétaux. Je prends souvent l'image d'une salamandre. Si on lui casse la queue, elle va repousser. Si on lui casse la queue 10 fois, elle va repousser. Au bout de 50, 100 fois, elle va s'épuiser. Elle va commencer à s'étioler, elle va commencer à se décolorer. Le génétique s'épuise. Donc, doucement avec la taille.
Et encore cette question, on change un peu de thème, mais pas tant que ça. Avec le réchauffement climatique, j'aimerais planter un arbre arbuste qui résiste aux futures grandes chaleurs. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'avec 4 degrés, il n'y a pas de grande chaleur. Mais qu'est-ce que vous me conseillez justement pour les étés à venir?
C'est une question qui commence à apparaître beaucoup. On essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans les régions méditerranéennes, dans des zones, des climats un petit peu plus secs. Mais la problématique, c'est que si on cherche des arbres qui tiennent à des étés secs, tant qu'on a les hivers rudes, c'est très difficile. Soit il va bien passer l'été, mais pas l'hiver, et soit inversement. Et c'est des choses à très long terme. Il ne faut pas regarder pour planter, et puis après-demain, se dire que ça va être magnifique, quoi. Des villes ont fait des essais qui sont aussi des échecs, donc...
Et puis, est-ce que ça veut dire que les essences de chez nous ne vont pas résister justement à ces grandes chaleurs?
Dans une partie, je pense qu'elles vont s'adapter. Une partie va résister, bien sûr. Après, on parle de grandes chaleurs, je ne sais pas, et personne ne sait jusqu'où ça va aller. Mais le mieux, l'idéal, ce serait que les plantes d'ici s'adaptent gentiment et avec la fitness, un petit peu la sélection naturelle, que ceux qui passent, passent, et ceux qui ne passent pas, ne passent pas. Parce que si on importe de nouveau d'autres essences, de nouveaux arbres, on risque aussi d'importer de nouveaux ravageurs, de nouvelles maladies, de nouvelles problématiques, c'est compliqué. Intuitivement, on aimerait mettre des arbres partout. C'est pas toujours la meilleure solution, en fait.
Donc, c'est pas la semaine prochaine qu'on aura des bananes dans notre jardin.
Non,
merci beaucoup, Julien. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des jardinières.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Il vous reste quelques minutes, mais très courtes, pour poser vos questions, peut-être juste par téléphone. On va rappeler le numéro, Brian.
0900 70 20 20, et vous pourrez poser votre question directement à notre spécialiste, Julien. Vous avez vraiment plus que 3 minutes. Quoi.
Voilà, ça c'est dit. Et puis nous, pendant ces 3 minutes, on va vous poser une question. Julien, on parle de jardin naturel libre, c'est un terme qu'on lit souvent. Est-ce que ces jardins sont si libres et naturels que ça ?
Oui, alors ce qui est pertinent, c'est justement la compréhension qu'on a du mot « nature ». Moi, je dis toutes les jardins, toutes les techniques de jardinage de taille, toutes les approches, qu'elles soient biodynamiques, qu'elles soient synthétiques, tout est une contrainte. De domestiquer la nature, c'est une contrainte. Donc, quand on dit naturel, c'est des fois ambigu, parce qu'il faudrait, pour que ce soit vraiment naturel, qu'il n'y ait justement aucune intervention. Donc, toute intervention, les jardins ne sont pas naturels. Par définition, le jardin est déjà une domestication de la nature, simplement.
Donc, pas libre non plus.
C'est semi-libre.
C'est avec le petit boulet à la pâte. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Il est presque l'heure déjà de prendre congé. Mais avant de filer, dites-nous, c'est quoi le programme du jardinier ce week-end ? De votre programme à vous, par exemple, vous allez au jardin ce week-end ?
Je vais passer au jardin, je vais même passer à celui de ma mère, je pense un petit peu, faire un tour. Et puis, je vais profiter du week-end s'il ne fait pas trop beau.
Et qu'est-ce que vous allez y faire dans ce jardin ?
Je vais voir justement s'il y a des choses à arracher un petit peu pour soulager les choses un petit peu plus physiques que je peux soulager ma mère. Et puis ensuite, je vais voir chez moi ce que je peux faire un petit peu. Ouais. Je vais déjà penser au printemps.
Parfait, merci beaucoup Julien. On rappelle que vous êtes coach en jardinage à Neuchâtel. Pour vous trouver, il suffit de taper www.ortis-concordia.ch. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et une belle suite parce que, malheureusement, faut le dire, c'était votre dernier passage chez les jardinières. On tenait à vous remercier pour vos bons conseils et votre bonne humeur.
Ben, je vous remercie beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil qui m'a été fait. J'espère que j'ai pu au moins une fois dire quelque chose de pertinent pour nos auditeurs, que j'ai pu au moins les aider un petit peu. Et ouais, c'était une belle expérience pour moi et je suis très reconnaissant envers tout le monde, envers toute l'équipe des animateurs, envers la RTN. Et merci beaucoup pour cette opportunité.
Eh bien, merci beaucoup, Julien. En tout cas, oui, on en a appris pas mal aujourd'hui sur le métier d'arboriste grimpeur. On rappelle que cette émission sera à réécouter en cours de matinée sur nos sites. Et vous rappelez que les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Vous avez bien sûr toute la semaine pour nous envoyer vos questions jardinage, soit en remplissant le formulaire sur notre site, soit en nous envoyant un SMS depuis votre téléphone portable. Vous tapez « jardin », un espace suivi de votre question que vous nous envoyez au 939. Bon week-end, Brian.
Mais bon week-end à vous, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.